Bonsoir, c'est le moment des amis d'Orwell.
War is peace. Freedom is slavery.
Ce soir, suite de la série documentaire Palestine vivra, écrite et réalisée par Pavel Leica, ce soir, épisode 4, consacré au commerce des armes et à l'économie de guerre israélienne.
C'était la patrouille de police snooping into people's windows, qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. Did not matter, however.
Seul comptait
only the thought police.
La police de la pensée.
La série documentaire Palestine vivra de Pavel Leica, on vous la propose depuis les deux dernières émissions. Ce soir, nous diffusons l'épisode 4 intitulé La justice des armes, dans lequel vont s'exprimer des membres du réseau Palestine Action en France. Il regroupe des personnes qui relaient les demandes venues de Palestine pour traquer et dénoncer les ventes d'armes qui alimentent le génocide en cours en Palestine. Alors, il est question des marchands d'armes israéliens, mais aussi de tout ce qui concourt ici même en France à alimenter la machine de guerre israélienne. Pour les suivre, Palestine Action, c'est sur le compte Palestine Action France sur Instagram. Alors, dans le documentaire, il y aura aussi le témoignage d'un avocat, Joseph Braham, du barreau de Paris. Il défend plusieurs familles palestiniennes dont les membres ont été tués par des armes dont les composants ont été produits en France. Un intéressant cas d'école, ce sera en deuxième partie. Alors je vous rappelle qu'un autre collectif a besoin de soutien, c'est Urgence Palestine, le principal groupe de soutien et de solidarité pour le peuple palestinien en France en ce moment. Il est visé par le ministère de l'Intérieur depuis la fin avril par une procédure de dissolution. Rejoignez-les pour les soutenir et signez la pétition disponible sur leur site urgence-palestine.org. À présent, Palestine vivra donc, épisode 4, la justice des armes.
Le système judiciaire israélien est complètement dysfonctionnel.
Madame, Monsieur, bonsoir. Après 5 attentats à Paris en moins de 2 semaines...
Le gouvernement israélien a adopté l'accord conclu avec l'OSCE.
Israël, on peut manifester pour les Palestiniens, on les laisse crever.
Qu'est-ce que c'est l'identité palestinienne? Comment on la conserve?
Georges Ibrahim Abdallah est d'abord un militant communiste libanais.
La grosse campagne des dernières décennies, c'est la guerre contre le terrorisme. On ne peut pas ne pas penser à la Palestine.
Le rapport also warns that bombs have contaminated the drinking water.
Palestine vivra, épisode 4, la justice des armes.
Du coup, moi je m'appelle Tarek, je fais partie du collectif Palestine Action France, qui a été créé récemment pour notamment répondre à un appel de Workers for Palestine, et qui, pour résumer, milite contre l'armement en France, enfin, par les sociétés françaises d'Israël et l'impérialisme de manière générale.
Je m'appelle Rosemonde. J'ai rejoint Palestine Action France il y a 4 mois environ. Nous, on est vraiment axés sur l'action directe. J'éprouvais une grande insatisfaction ces derniers mois à voir s'enchaîner les manifestations, les pétitions, toutes, je crois, vouées à l'échec, hein, étant donné la situation politique et le soutien indéfectible de notre pays à l'entité sioniste. Donc, lorsque j'ai entendu parler des moyens d'action, déjà de PA UK que je suivais sur les réseaux et la création de sa branche française, j'ai évidemment foncé très rapidement et avec beaucoup d'enthousiasme, enthousiasme qui perdure aujourd'hui.
Pour en dire un petit peu plus sur les modes d'action, que, enfin, bon, certains pourraient qualifier de radicaux. Nous, on appelle ça des actions directes, et on essaie simplement d'être à la hauteur, même si je pense qu'on l'est pas, mais on fait de notre maximum d'être à la hauteur de la violence que subissent aujourd'hui les Palestiniens. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire plus, on va dire, parce qu'on a tous fait des manifestations, on a tous exprimé notre désarroi sur les réseaux sociaux, on a tous parlé dans les dîners de famille, et je pense qu'à un moment, ça suffisait plus. Et très rapidement, en fait, Palestine Action France s'est construit pour essayer d'aller plus loin et d'avoir un impact sur... d'avoir un impact en France, et qui s'est inscrit en fait dans une lutte palestinienne depuis des dizaines d'années, depuis certains disent 76 ans, mais c'est encore plus, je pense, et qui vise à vraiment avoir des opérations en dehors des frontières palestiniennes, pardon. Et du coup, on se veut être la branche française, et on se veut mener ce mouvement ici en France.
Moi, je m'appelle Yacine, je suis aussi membre de Palestine Action France. J'étais là depuis le début. Pour compléter un peu ce qui a été dit, nous, l'idée, c'était de participer à la création de ce collectif en voyant les interdictions de manifestation qui sont arrivées dès le début et qui ont finalement perduré sous différentes formes. Et donc, face à cette répression, de voir un petit peu comment on peut adresser certaines questions tout en se faisant le relais d'initiatives palestiniennes, donc voilà, Workers for Palestine, comment on fait aussi pour recréer des marges de manœuvre, parce qu'on voit bien que la question de la Palestine, c'est à la fois la question d'un mouvement de libération nationale, mais que à travers cette question se posent tout un tas de questions, des questions de colonisation, des questions d'impérialisme, des questions de liberté publique, et on voit bien que la question de la Palestine, et ben, en fait, elle met en crise l'Occident, son rapport au monde, c'est un rapport au monde, un rapport aux choses, un rapport à la nature, un rapport à tout un tas de choses qui se retrouvent repliées quand on prononce le mot de Palestine, comme pour d'autres luttes hein, aussi, mais c'est particulièrement prégnant quand il est question de Palestine. Et donc l'idée, c'était de dire voilà, il y a des gens qui veulent faire quelque chose, qui veulent vraiment essayer de le faire, et au moment où on a commencé à s'organiser, il n'y avait pas encore de génocide. Maintenant, il y en a un. Moi, parmi les choses qui m'ont intéressé dans le fait de participer à ce collectif, c'était le fait de se dire, on va essayer de s'organiser sur la durée. On espère que le génocide va s'arrêter, mais on va quand même continuer à le faire après. Au travers aussi de nos modes d'organisation, on espère pouvoir infuser et participer à d'autres luttes.
قتلنا وينو بوم بخبط ربيع مزينو في بصعب صوت نسوليت الشيء الحط كله طرح بمكينو إنهم قتلنا وينو بوم بخبط ربيع مزينو
De prime abord, j'ai envie de souligner que nous, on prend nos directives, si j'ose dire, de la société palestinienne. Ça, c'est très important pour nous, hein, en tant qu'habitants d'État impérialiste, de ne pas confisquer la parole des Palestiniens, Palestiniennes. Donc voilà, la base, évidemment, c'est cet appel qui a été lancé en octobre par Workers for Palestine, qui demande à chacun, chacune, d'œuvrer à désarmer les fabricants d'armes. Ces armes, elles sont produites ici, mais c'est là-bas qu'elles tuent et qu'elles mutilent. Donc on estime que répondre à cet appel de la société palestinienne, des travailleurs, travailleuses palestiniennes, c'est évidemment notre rôle. On n'hésite pas à se mettre en première ligne hein, pour frapper ses intérêts. Alors tu disais tout à l'heure, Tarek, effectivement, on peut nous accuser quelquefois d'avoir des actions violentes, radicales. Nous, on estime que par rapport à la violence incommensurable, hein, on rappellera tout à l'heure des chiffres hein, qui sont monstrueux. Donc, frapper les intérêts de l'industrie d'armement, c'est pour nous le premier moyen d'apporter un soutien effectif et concret, non pas des mots, des manifestations, même si ça peut avoir son intérêt par ailleurs. Hein, on ne dénonce pas le fait qu'il y ait d'autres formes d'organisation. La nôtre, chez Palestine Action, c'est vraiment de frapper au cœur l'industrie d'armement, D'autant plus qu'en France, à la différence de ce qui se passe au Royaume-Uni, l'État français est actionnaire principal de ces firmes. Donc on a en plus un positionnement politique, je dirais, qui est redoublé par le fait qu'on frappe un État qui est un soutien indéfectible de l'entité sioniste.
Cette initiative, elle est née donc de syndicats palestiniens. Elle avait pour but de copier des initiatives qui ont eu lieu avant en Éthiopie, en Italie, en Afrique du Sud. En fait, quand l'appel est sorti, il y avait 4 ou 5 revendications principales que j'ai sous les yeux, poussées donc via des syndicats. C'est des syndicats qui s'adressent essentiellement à des syndicats, mais aussi à la société civile, de refuser de construire des armes qui iraient en Israël, de refuser de transporter des armes pour aller en Israël, de faire voter dans les syndicats des motions en ce sens. Donc là, ça fait plus référence à ce qui a été dit par Rosemonde avant, de faire des actions contre les entreprises qui participent de manière directe ou indirecte au siège, à l'occupation de la Palestine, de manière à ce qu'elles arrêtent les contrats. Et le dernier point, qui est le cinquième, c'est de faire pression sur les gouvernements pour qu'elles arrêtent de commercer avec Israël. Cet appel a été assez signé en France. C'est pas pour ça qu'il y a eu des actions des syndicats. Quand on compare, par exemple, à ce qui s'est passé en Irlande ou en Espagne, c'est des revendications qui ont été portées, y compris par des membres du gouvernement. Parce que la question, c'est toujours un petit peu comme disait Rosemonde, comment on fait quand on est loin? Comment on fait quand on n'est pas là-bas? Qu'est-ce qu'on peut faire depuis ici? Et quels enjeux politiques se retrouvent repliés dans on soutient les Palestiniens? Parce que nous, on est aussi soucieux d'antiracisme et être antiraciste. Par exemple, pour nous, ça ne se traduit pas forcément par le fait de dire tout ce qu'un Palestinien dira, on sera d'accord avec lui. Parce que, comme on considère qu'un Palestinien ou une Palestinienne, comme un Français, comme un Congolais, c'est un sujet politique, eh ben, il a des lignes politiques. Ça veut dire qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec... Avec un Palestinien. Et donc c'est vrai que la question des armes, elle permettait aussi de faire un pas de côté par rapport à ça, en disant voilà, nous on va s'organiser depuis ici, depuis une puissance impérialiste, le deuxième producteur d'armes au monde, vendeur d'armes au monde, la France, et en même temps on va avoir un geste de solidarité par une partie de la société palestinienne, à savoir ces syndicats.
اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بنضرب حرب الليلة ما بنغلب بدك شبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا نحل اللغز رنيت على نفحة وكل بخش وكشفنا وياما وكل بصف ولا مرة
ça a commencé en 2020. Nous, quand on s'est créé en France, y avait l'idée quand même d'avoir une action internationale pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'on fait face à une coalition internationale. La deuxième, c'est qu'on était soucieux de solidarité internationale. La troisième, c'est que pour notre propre survie et pour gagner du temps et en perdre le moins possible, ça nous importait, par exemple, de faire à la fois faire partie d'un réseau et à la fois de pouvoir profiter de l'expérience d'autres. Et c'est pour ça que, de mémoire, c'est allé assez vite, parce que à la cinquième ou à la sixième réunion qu'on a eue, on avait déjà un rendez-vous avec les gens de Palestine Action UK et Palestine Action États-Unis, avec lesquels il y a eu à la fois des réunions, je pense des choses qui ressemblaient à un mix de partage d'expériences et de workshops. Par exemple, on a pu répondre à des questions simples comme qu'est-ce que vous auriez pu faire, c'est plutôt eux qui ont répondu ça, qu'est-ce que vous auriez pu faire si vous commenciez à construire Palestine Action UK en ayant l'expérience que vous aviez déjà eue. Et là, ils nous ont dit, par exemple, on serait allé, on se serait acharné sur une boîte directe. Ou ils nous ont dit, par exemple, on aurait été bien plus violent parce que ça nous a permis de ne pas être bloqués dans notre action par la suite. Donc voilà, c'était ce genre de discussion un petit peu qu'il y a eu, et aussi des discussions de structuration qu'on a pu du coup mettre en dialogue avec les expériences politiques qui existaient entre les différents individus qui composaient le groupe. Et surtout, ça permet de rester sensible à ce qui se passe au-dehors de nous. Et je dis moins ça par confort ou par curiosité intellectuelle que parce que, personnellement, moi, par exemple, le fait de pouvoir avoir accès à ce qui se disait ailleurs qu'en France depuis 6 mois, c'est quelque chose qui a permis que je ne sois pas devenu fou. Voilà.
We believe that the power is in the hands of the people. We can't rely on governments to make the changes because, especially in the UK context, when the government has been complicit in the colonization of Palestine for over 100 years.
Les outils qui servent à contrôler, à coloniser, à mutiler et à tuer la population palestinienne, on les expérimente aussi d'une certaine manière dans la société de surveillance qui se met en place en France, hein, je dirais, depuis une vingtaine d'années. On voit de façon extrêmement prégnante un glissement autoritaire, hein, dans notre pseudo-démocratie. Et donc, ces outils qui servent à ficher les Palestiniens et les Palestiniennes aux checkpoints, ce sont des outils qui sont également utilisés contre nous. Toute personne, je dirais, aujourd'hui, devrait se soucier de ce qui se passe pour les militants, mais également pour les simples citoyens, citoyennes françaises ou populations étrangères vivant en France, de ce fichage généralisé. À titre d'exemple, je dirais que le logiciel de surveillance Briefcam, qui a été acquis en 2015 par le ministère de l'Intérieur, c'est un outil, hein, qui nous vient directement de l'entité sioniste. Donc on se situe, nous aussi, et là encore le cadre transnational est pertinent, cette société de surveillance, elle est également mondiale.
Aider les enquêteurs, cette autre entreprise israélienne le fait déjà. Son logiciel est en service dans plusieurs villes de l'Hexagone, comme Nice et Deauville. Le principe, un moteur de recherche intuitif. Tout objet apparaissant dans une vidéo est classé dans une catégorie. Les images filmées génèrent alors une gigantesque base de données.
Et puis voilà, c'est un truc qu'on nous a beaucoup rabâché depuis le début. Dès qu'on a voulu s'exprimer pour la Palestine, c'était « il ne faut pas ramener le conflit en France, le conflit au Proche-Orient, nanana ». Mais en fait, le conflit, il est déjà en France. Je veux dire, à partir du moment où nous, on arme l'entité sioniste, comment on peut nous demander, comment les gens osent nous dire « ben non, ramenez pas le conflit, pas de manifestation, on nous a interdit des manifestations pendant des semaines ». Enfin, je veux dire, comment c'est possible? C'est pas nous. Nous, on n'a rien ramené, en fait. Je veux dire, il est là, le conflit. Et vraiment, c'est un truc que j'ai vraiment envie d'exprimer aux gens. C'est-à-dire que, arrêtez de nous faire croire que c'est nous qui importons le conflit en voulant défendre la Palestine. Je veux dire, c'est le Royaume-Uni qui a colonisé la Palestine. C'est eux qui ont fait le partage des territoires. C'est eux qui ont décidé de qui allait avoir quoi. C'est eux qui ont créé, qui ont signé l'entité sioniste. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de rester dans un état d'esprit transnational, comme on disait. D'ailleurs, quand en France, au début, les manifestations, elles ont été interdites pendant plusieurs semaines. Au final, moi, j'ai voyagé quelques semaines après au Maroc. Ma première manifestation, en fait, après le 7 octobre, elle s'est faite à Casablanca, quoi. Et en fait, je me suis senti bien, quoi, d'avoir le droit de dire ce que j'ai envie de dire. On nous rabâche à longueur de journée dès qu'il y a une caricature dans Charlie Hebdo ou autre chose, que c'est la liberté de la presse. Mais nous, quand on veut juste s'exprimer et dire qu'on est contre l'entité sioniste et qu'on veut une Palestine libre de la mer au Jourdain, c'est apologie du terrorisme tout de suite. Et qu'on s'appelle Monsieur Tout-le-Monde ou qu'on s'appelle président de l'Assemblée nationale, je veux dire, Mathilde Panot a été convoquée, Rima Hassan, enfin je veux dire, il y a quand même des gens avec qui on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais qui, je pense, font juste le béaba de ce qu'on peut dire sur le conflit actuel, qui essayent simplement de défendre des droits humains pour les Palestiniens. Et même eux, on pourrait dire qu'ils ont quand même une ligne assez soft, ils se font convoquer pour apologie du terrorisme et il y a des enquêtes sur eux. C'est quand même incroyable.
Et le retour de Maël Hassani pour le journal de 19h, exactement 19h08, à quelques semaines des élections européennes. La France insoumise doit gérer une nouvelle polémique.
Oui, la présence de la militante franco-palestinienne controversée Rima Hassan sur la liste pour le scrutin du 9 juin était déjà un point sensible et les choses ne vont pas s'arranger, loin de là. La jeune femme de 31 ans est convoquée par la police en audition libre pour apologie du terrorisme. Qu'est-ce que la police reproche à cette militante, Alexis de La Fontaine ?
Eh bien, interrogée par le média Le Crayon, quelques jours après le pogrom du 7 octobre, la militante franco-palestinienne Rima Hassan a tenu à défendre le Hamas. Écoutez.
Le Hamas mène une action légitime.
Vrai.
L'État d'Israël a un droit de défense.
Faux.
Solution à deux États est possible.
Faux.
Un discours de soutien aux actions du Hamas que Rima Hassan avait depuis regretté, estimant que ses propos avaient été tronqués. Des excuses peu convaincantes pour les enquêteurs qui soupçonnent la candidate insoumise d'apologie du terrorisme.
Je veux dire, on vit dans un monde de répression. Et c'est pas qu'en France. Tu parlais du logiciel Rosemonde, il y a aussi eu Pegasus, qui est quand même un logiciel 100% israélien, qui a été créé par l'entité sioniste, qui a été utilisé partout. Qui a été même utilisé par des pays dits arabes musulmans comme le Maroc. Et ça, c'est un scandale qui a été passé sous le tapis. Mais je veux dire, on parle aussi là d'une entreprise basée dans une colonie israélienne, d'une entreprise qui a eu un impact partout dans le monde et qui n'a eu aucune poursuite.
Entre 2017 et 2019, il y aurait 50 000 numéros dans le monde entier, dont environ 1 000 en France, qui auraient été placés sur des listes. Alors, il est important de noter qu'on ne sait pas si tous ces numéros ont réellement été espionnés. En tout cas, potentiellement, ils l'ont été. C'est un logiciel qui est quelque part un petit peu diabolique parce qu'il permet non seulement d'enregistrer des appels téléphoniques, mais une fois qu'il s'est inséré, entre guillemets, dans un téléphone, il peut récupérer énormément d'informations, les messages, les photos, les vidéos. Tous ces contenus peuvent être aspirés par ce logiciel. Et ensuite, il y a différents pays étrangers, on parle notamment du Mexique ou du Maroc, qui sont accusés d'être clients de la société NSO et donc clients du logiciel Pegasus et qui peuvent ensuite chercher à récupérer une partie de toutes ces informations. En France, de nombreuses personnalités, à commencer par le chef de l'État Emmanuel Macron, ont un de leurs numéros qui figure sur ce grand listing.
Depuis 2014, la famille Chouébar porte les martyrs des trois enfants, Afnan, Wassim et Jihad, qui ont 8, 9 et 10 ans, qui ont été assassinés à Gaza alors qu'ils donnaient à manger aux pigeons sur leur toit. Alors, faut s'imaginer un peu la scène. Et ils ont été tués par un missile qui est vraisemblablement tiré par un drone, parce qu'aujourd'hui on utilise les drones et la technologie et l'intelligence artificielle, je ne sais pas si elle est si intelligente que ça, pour tuer les Gazaouis, et qui portait l'inscription Eurofarad, qui est l'ancien nom en fait d'Excélien. On réclame justice pour cette famille, que la justice française raciste et impérialiste balade depuis près de 10 ans dans une procédure interminable, qu'on puisse au moins dénoncer le coupable. Que le coupable soit sanctionné. Le coupable, je rappelle, c'est Excélia dans ce cas-là. Et pour toutes et tous, si vous vous demandez qu'est-ce qu'Excélia, il suffit de faire un petit tour dans le 11e arrondissement. Ils sont en face du métro Parmentier, donc un lieu où sûrement beaucoup d'entre nous passent tous les jours sans savoir que ici on produit des armes pour l'entité sioniste. Et je pense que ce cas de la famille est hyper concret. En fait, il nous permet de se rendre compte en fait, de ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas juste des bureaux dans Paris, c'est l'armement de drones qui larguent des missiles sur des enfants en Palestine. En fait, le lien il est super direct. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a décidé aussi de prendre des actions directes et on continuera de le faire.
Pour compléter sur ce point-là, parce que justement, Tarek, avant, il parlait d'importation du conflit. Importation du conflit... c'est toujours à des Arabes et des Noirs, comme globalement, qu'on reproche de façon à peine codée et même de moins en moins qu'il y aurait importation qui serait fondée elle-même sur une solidarité dont on ne sait pas très bien si c'est une solidarité de couleur, de religion. Et on voit bien que justement l'exemple d'Excélia, il met en lumière qui importe. Les gens qui importent, c'est les bourgeois et l'État français, parce que dans les débris du missile qui a buté cette famille sont de fabrication française. Donc la question qui se pose à des gens, même s'ils sont que français, s'ils ne veulent pas importer le conflit, c'est de se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de missiles de fabrication française qui butent des Palestiniens. Rappelons aussi, puisqu'on en est à donner des exemples de collaboration militaire et policière entre la France et Israël, que c'est grâce à la France que Israël est une puissance nucléaire. Mmh. Et donc une menace pour aussi toute la région. Rappelons que il y a un programme nucléaire en Israël qui s'appelle le projet Samson, qui a été évoqué notamment par Eyal Sivan, qui dit que en cas où il y a une menace existentielle par l'état-major, bah, l'idée c'est de faire comme Samson, donc de se suicider et de suicider tout le monde autour de soi. Donc Samson, il y a deux occurrences. Il y a d'abord l'opération Samson. Donc ça c'est pendant la guerre de 67 où Israël avait prévu de jeter une bombe nucléaire sur l'Égypte si jamais elle perdait. Ça c'est connu, hein, tu trouveras notamment un article du Temps qui en parle. Et l'option Samson, ça c'est Shimon Peres qui le théorise. C'est très intéressant aussi parce que ça montre bien le caractère transpartisan de ce que c'est le sionisme. Parce que souvent on dit c'est Netanyahou, mais c'est pas juste Netanyahou. Et l'option Samson, donc du coup, c'est bien le suicide comme Samson. Donc Samson, en gros, face à ses ennemis, il fait s'écrouler le temple des Philistins sur ses ennemis et il meurt. Et donc c'est pour ça que le programme nucléaire s'appelle l'option Samson en Israël, qui bien sûr ne dit que eux, ils n'ont pas l'arme nucléaire, même si tout le monde le sait, parce qu'ils ont adopté une doctrine qui s'appelle la doctrine de l'ambiguïté nucléaire, qui ne fait l'objet d'aucune question, puisque on voit bien, par exemple, si on compare au hasard à l'Iran, qu'il n'y a pas de discussion sur le fait que Israël, un pays qui n'a même pas de frontières, ait une arme nucléaire et plusieurs milliers de têtes qui peuvent détruire potentiellement tout le globe. Et il n'y a personne qui a envie juste de demander si c'est vrai, ou de visiter les installations, ou de les appeler à désarmer, alors qu'ils ne sont pas signataires, par exemple, du traité de non-prolifération nucléaire. Voilà. Donc voilà, il faut bien mesurer qu'est-ce que c'est l'État colonial, en quoi il met en danger, outre l'oppression de la colonisation, de l'apartheid, etc., qui à elle-même se suffit. Il faut bien se rendre compte de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait peser sur le monde entier. Et c'est précisément, à mon avis, à ce titre que, justement, il y a une solidarité si forte, notamment des pays du Sud, et qu'il s'est dit ce qui s'est dit à la Cour de justice internationale, notamment grâce à l'Afrique du Sud, qui a défendu les résidus du système international existant.
Déterminée à mener à bien sa procédure juridique contre Israël, l'Afrique du Sud a déposé lundi son dossier à la Cour internationale de justice. Un mémorial de près de 5000 pages contenant des preuves, selon Pretoria, que les agissements de l'État hébreu à Gaza constituent un acte de génocide.
Israël a violé la Convention sur le génocide en incitant à la destruction des Palestiniens vivant à Gaza, en les tuant à l'aide d'armes lourdes, en les privant d'accès à l'aide humanitaire et en utilisant la famine comme arme de guerre.
Tout le monde peut nous rejoindre dans ce mouvement. Tout le monde peut avoir un rôle. On n'a pas besoin d'avoir de capacités spéciales, on n'a pas besoin d'en savoir plus que ça. On peut aussi simplement s'intéresser à ce qui se passe et s'informer. Et il y a plein de rôles différents qui peuvent être tenus dans une organisation comme la nôtre, qui se veut être une organisation horizontale. Le plus facile, c'est de nous envoyer un message sur Instagram. Après, on fournira, nous, la démarche claire et exacte, parce qu'on a une démarche d'intégration, il faut juste suivre quelques étapes. On a bien sûr besoin de plus de monde. On aspire à avoir des actions de plus en plus grandes, comme on a pu le voir par exemple avec Palestine Action UK. Mais voilà, ça peut être vraiment monsieur ou madame tout le monde. Faut pas hésiter à nous écrire, même nous écrire juste pour en savoir plus, rejoindre juste une réunion d'information, juste savoir un peu plus sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et puis on se fera un plaisir, nous, d'expliquer, de prendre le temps et de vous convaincre que il faut il faut agir aujourd'hui plus que jamais. As I walk with my 2 foot, I look around and see a bunch of aliens living illegally. Why they claim the land? They're not from the land. The great great ancestors never bought the land. Cause this place you see, it never got for sale. Palestinian I never see them. Vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire, suite de la série documentaire Palestine vivra. Vous écoutez l'épisode 4, La justice des armes. Pour suivre de plus près le collectif Palestine Action, rendez-vous sur leur compte Instagram Palestine Action France. Et à présent, un entretien avec l'avocat Joseph Bréham.
En fait, en 2016, une journaliste et enfin une photographe est venue nous voir, Anne Pack en l'occurrence, parce que en allant faire un reportage à Gaza, elle a identifié sur ces zones, trois zones de crimes de guerre, elle a trouvé ce morceau de pièce. Elle s'est dit mais attends, il y a forcément quelque chose à faire. Et à partir de là, elle s'est mise en lien avec une association qui s'appelle l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et l'ACAT est venue nous voir en nous demandant si on pouvait faire quelque chose. Joseph Bréham, je suis avocat au barreau de Paris. Fondateur du cabinet Ancil Avocat, spécialisé principalement dans des dossiers de droit international des droits de l'homme et droit international humanitaire. Donc en 2014, en pleine opération israélienne à Gaza, une bombe, un missile pour être parfaitement exact, tombe sur le toit d'une famille. Cette famille s'appelle la famille Chouéibar, ça a été révélé. Et parmi les décombres du missile, on retrouve une pièce sur laquelle il y a écrit Eurofarad, qui est le nom d'une entreprise française de l'époque, Made in Paris, France. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu plusieurs morts des enfants ce jour-là, sur ce toit-là, lors de cette opération. Et le type de missile retrouvé laisse à penser qu'il s'agit d'un tir de drone. Et on a retrouvé sur d'autres zones de crimes de guerre. Pourquoi est-ce que c'est un crime de guerre? Parce qu'en fait, a priori, ce sont des enfants qui ont été ciblés. Et que, on ne fait pas la guerre aux enfants. Y a un peu ce qu'on appelle un principe de proportionnalité. Et on a retrouvé donc sur d'autres zones de crimes de guerre les mêmes débris, c'est-à-dire à chaque fois des capteurs. Enfin, une pièce dont on découvrira après que c'est un capteur sur lequel il y a écrit Eurofarad Made in France. En 2016, on dépose plainte, nous, contre l'entreprise Eurofarad, qui deviendra Exelia, sur deux fondements. Le premier raisonnement, c'est de dire que Tsahal, donc les forces de défense israéliennes, avaient déjà, par le passé, utilisé ce type de missile pour commettre des actes qui avaient été qualifiés comme crimes de guerre, non seulement par les Nations Unies, mais par énormément d'autres organes internationaux. Et il y avait eu, lors de précédentes opérations, que ce soit dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Libé, dans L'Humanité, enfin en gros, il était su par toute personne qui s'y intéressait que le type de missile dans lequel on mettait ces capteurs avait déjà été utilisé pour commettre des crimes de guerre. Traduction, qu'en fournissant ces capteurs à Israël, à Tsahal ou à un fournisseur de l'armée israélienne, l'entreprise prenait un risque, un, de faire tuer des gens directement, et dans tous les cas, deux, fournissait les moyens à l'entreprise ou à Tsahal d'aller commettre des crimes de guerre. Et si on fait la traduction juridique de tout ça, ça veut dire quoi? Eh bien, ça s'appelle de la complicité. Pour dire la chose très simplement, je sais que vous êtes un braqueur de banque patenté, je vous fournis une arme, un masque de président américain, et je suis complice du braquage de banque que vous allez commettre. Bon, voilà. Et on a appliqué exactement le même raisonnement sur le crime de guerre.
Je me présente, je suis Fabrice Bellet, je suis directeur du site de Saint-Nazaire dans le groupe Exelia. Le groupe Exelia fabrique des composants électroniques passifs et des sous-ensembles innovants pour des environnements très sévères.
Le deuxième élément, c'est de dire, ok, si jamais vous nous disiez, mais je ne savais pas du tout. Mais en fait, vous avez commis une faute en ne sachant pas. Pourquoi? Parce que vous avez une obligation au regard du traité sur le commerce des armes, au regard de la position européenne commune, au regard de plein de choses sur lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, vous avez l'obligation de ne pas prendre le risque de commettre d'infractions pénales en fournissant vos armes. Et donc, en ne mettant pas en place un système qui vous aurait permis d'être informé, vous avez commis une faute, même simple, en fait, il parle de faute simple. Et lorsqu'on n'est pas directement à l'origine du dommage, c'est évidemment pas Exelia qui a tiré le missile, donc lorsqu'on est à l'origine indirecte du dommage, ce qui est le cas là, en l'occurrence, eh bien, nous oblige à réparer le dommage, un, et deux, permet de voir sa responsabilité pénale engagée. Le raisonnement est assez simple, toute cette idée-là, c'est ce qu'on appelle l'homicide involontaire, c'est né comment ? C'est né des chantiers sur lesquels travaillent des ouvriers. Un employeur, quand il y a un accident de chantier, qu'il n'a pas respecté, qu'il a commis une faute même simple, par exemple, il n'a pas respecté les horaires de travail, ou des choses comme ça, eh bien, évidemment qu'il ne voulait pas la mort du salarié s'il y a un accident, n'empêche que son comportement et sa faute a contribué à la mort du salarié, donc il doit en payer le prix. Voilà. Donc ça, c'est les deux raisonnements que l'on a retenus. Il faut noter que c'est la première fois à notre connaissance qu'une juridiction va s'intéresser à caractériser juridiquement la définition d'un comportement d'Israël, de l'armée israélienne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'a priori, Israël est un état de droit, et donc la définition de l'état de droit, c'est que tous les sujets de droit, donc qu'ils soient israéliens ou palestiniens, doivent avoir la possibilité de faire appliquer la loi et de demander, s'ils estiment que leurs droits ne sont pas respectés, à une juridiction, en l'occurrence aux juridictions israéliennes, de faire respecter la loi. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, les Palestiniens devraient pouvoir saisir les juridictions israéliennes et dire « Moi, j'estime avoir été victime de crimes de guerre, à vous d'enquêter et à vous de juger ». Bah malheureusement, au moins à cet égard, le système judiciaire israélien ne fonctionne pas. Il suffit de regarder le nombre de plaintes déposées par rapport au nombre de plaintes qui ont abouti. Bah, c'est très simple, aucune plainte déposée par un Palestinien n'a jamais abouti, en tout cas pour crime de guerre. Alors deux possibilités à partir de là, soit l'armée israélienne est l'armée la plus vertueuse du monde et ne commet pas le moindre crime de guerre, c'est une possibilité, on ne sait jamais, soit en fait il y a simplement une totale impunité des crimes de guerre commis. C'est un des intérêts de cette plainte, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a fait cette plainte, il y en a d'autres, mais c'est que c'est un moyen de délocaliser la réponse judiciaire aux problématiques causées par les guerres israélo-palestiniennes.
Monsieur le ministre, ces 10 dernières années, la France a livré pour plus de 200 millions d'euros d'armes à Israël. Est-ce que la France continue de fournir des armes à Netanyahou ? Avez-vous, monsieur le ministre, la certitude qu'aucun composant militaire français n'est utilisé à Gaza dans aucun crime de guerre qui est commis ? Et quand allez-vous décréter l'embargo sur les armes ? De Gaulle l'a fait, Macron, Emmanuel Macron doit le faire.
Pour ce qui est des armes, je reviens sur ce sujet-là et probablement je vous donnerai des précisions après parce qu'on n'a pas toutes les informations. Je reviendrai pour vous donner un chiffre parce que je n'ai pas le chiffre ici, mais je le ferai en transparence si vous le souhaitez.
L'autre intérêt de cette plainte, c'est que c'est un moyen de mettre devant leurs responsabilités ceux qui ne commettent pas directement les infractions, mais ceux qui les permettent. Je veux dire que jusqu'à cette plainte, a priori, jamais les vendeurs d'armes ne s'étaient dit que leur responsabilité pouvait être engagée pour la fourniture d'armes respectant les règles. En France, les armes, a priori, on n'a pas le droit de les vendre. Sauf cas particulier, et dans ces cas particuliers, il faut ne pas avoir été condamné par la justice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en clair que si on a un casier judiciaire, pour un certain nombre d'infractions, on n'a pas le droit de se voir vendre les armes quand on est un particulier. Ben, c'est exactement le même raisonnement qui a été appliqué, a priori, pour les États. Je m'explique. En France, donc, on n'a pas le droit de vendre à des États, sauf si on y a été autorisé par ce qu'on appelle la CIEMJ, Commission interministérielle d'évaluation des exportations de matériel de guerre. Bon. Alors, elle a changé de nom. Il y en a pour le matériel double usage, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut une autorisation d'une commission interministérielle. Bon. Et depuis récemment, depuis 2016 ou 2017, cette commission doit respecter un cadre juridique, qui est un cadre juridique international, qui est posé par le TCA, le traité sur le commerce des armes. Et ce TCA, il nous dit quoi ? C'est les articles 6 et 7. Il nous dit qu'on n'a pas le droit de vendre aux États qui ont un track record, un casier judiciaire, si on peut dire ça comme ça, de violations graves du droit international humanitaire. Évidemment, pour vous dire un chose autrement, on a le droit de vous vendre des armes pour vous défendre, exclusivement. Si vous avez commis des crimes de guerre avec des missiles, on a le droit de vous vendre des fusils. Mais en revanche, on n'a pas le droit de vous vendre des missiles si vous avez déjà commis avec des missiles et pas des fusils, etc., etc. Les entreprises d'armement françaises n'avaient jamais imaginé que si elles avaient été autorisées par la CIEMJ, on pouvait quand même aller rechercher leurs responsabilités. Et ça, c'est l'autre objectif qui est poursuivi dans cette plainte, au-delà de mettre fin à l'impunité de Tsahal.
Vous avez sûrement vu les révélations qui ont été faites aujourd'hui, qui montrent que La France a fourni à Israël des pièces pour des fusils mitrailleurs utilisés à Gaza, soit au moins 100 000 pièces de cartouches pour fusils mitrailleurs qui ont été livrées dans un grand secret fin octobre 2023, ce qui veut dire plusieurs choses. D'abord, le gouvernement a menti à la représentation nationale, puisqu'à plusieurs reprises, nous l'avions interrogé sur ces questions de livraison d'armes. Le deuxième scandale qui apparaît alors, c'est que cette livraison qui a été faite en grand secret est susceptible d'avoir été utilisé contre des civils à Gaza. Et notamment, si vous regardez les rapports des ONG qui ont été faits sur ce qu'on a appelé le massacre de la famine, qui est responsable de 112 morts et de 760 blessés, on retrouve ces balles de calibre 5,56 qui ont été utilisées donc contre des civils qui avaient juste faim et qui sont les mêmes qui sont les composants qui aident ces fusils mitrailleurs livrés par la France. Donc, ce qui ferait de la France une complice du génocide qui est en cours à Gaza. C'est un scandale qui est énorme et je crois que le gouvernement devra répondre de ces questions.
Donc on l'a déposé en 2016, donc cette plainte. Eh bien, ça a été long, très très long. Puisque on en est au troisième ou quatrième juge d'instruction qui se succède sur ce dossier. Alors, il y a des raisons objectives et il y a des raisons supposées. La raison objective, c'est qu'il est évidemment beaucoup plus compliqué d'enquêter à Gaza, donc à 6000 km de Paris, plutôt que dans le 12e arrondissement. Bon, première raison objective. Deuxième raison objective, la justice française, c'est écrit à longueur de journaux, donc voilà, est dans un état de déshérence totale. Voilà. Troisième raison objective, il est encore plus compliqué d'enquêter à Gaza que dans un autre endroit à 6000 km. Et ce, pour deux types de raisons. La première, c'est que depuis maintenant 15 ans, Gaza est sous blocus. Donc ça veut dire qu'on ne rentre pas et qu'on ne sort pas comme on veut de Gaza. Et puis deuxième raison, aujourd'hui, le système judiciaire gazaouite, il est entre les mains du Hamas. On en pense ce qu'on en veut, mais le Hamas est aujourd'hui, en tout cas pour beaucoup d'organismes internationaux et ou régionaux, est une organisation terroriste. Et donc on peut difficilement discuter, lorsque l'on est la justice française, on peut difficilement obtenir beaucoup d'informations de la part d'une organisation qui est considérée comme terroriste. Et puis il y a aussi des raisons que l'on imagine. Première raison qu'il a est d'ordre psychologique. Et ben, c'est la première fois que ce raisonnement est suivi, est appliqué. Deuxième raison, il n'y a pas besoin de lire beaucoup la presse pour comprendre que a priori les autorités françaises ont une position très mitigée dans ce conflit. Et vraiment, je fais très attention à ce que je dis. Aujourd'hui, la communauté internationale, en tout cas la communauté juridique internationale, est à peu près claire. Il y a un génocide qui est en cours à Gaza, mais on n'a pas entendu de condamnation extrêmement forte par les autorités françaises, par les autorités européennes ou par les autorités américaines. Il y a eu des placements sur des listes pour des faits beaucoup, beaucoup moins grave. Peut-être que les autorités politiques françaises, dont je rappelle qu'elles sont les responsables hiérarchiques des parquetiers, donc des procureurs de la République et donc de tous les procureurs, ont pas forcément autant de motivation pour ce dossier que quand il s'agit de d'identifier la responsabilité d'un petit dealer de shit en bas d'un immeuble, quoi. Voilà. Malgré ce que je viens de dire, les juges d'instruction qui se sont succédés ont toujours plutôt pas mal bossé, voire même beaucoup bossé, et les services enquêteurs qui ont été saisis ont fait un excellent boulot et sont vraiment allés au bout des choses. Maintenant, c'était un membre du service enquêteur, c'était pas une équipe d'enquête, c'était, enfin voilà. Bon, donc aucun reproche aux individus, peut-être une petite réaction épidermique du système. Quoi. Voilà.
Un vieux ballon sur une jeune poitrine, amorti du plastron dans le camp des apatrides. Quatre défenseurs sans entraîneur, qui ne savent plus s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur. En fin de match, aucun maillot ne s'échange, pour les mêmes raisons que Cristiano la légende. Ni stable, ni gazon synthétique. Notre terrain, c'est le sable fin de Palestine. Au Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach. Le dernier club de football au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach. Entre ports de pêcheurs et hôtelleries de riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach. Où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes. Chacun son camp et la balle au centre, leur tenue bleue et blanche porte l'étoile à six branches. Dernier vainqueur de la coupe du monde, on leur tient tête avec nos joueurs de 3ème division. Mes frères et moi, et mon cousin aussi, ce qu'on veut c'est ressembler à Messi ou Mesut Ozil. On rêve de recrutement de mercato, de revenir au bercail en héros pour jouer au Gaza Soccer Beach. Gaza Soccer Beach, le dernier club de football au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entrepôt de pêcheurs et hôtellerie de riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes. Un premier tir non cadré fait valser la défense, doublé d'une frappe aérienne qui leur fauchera les jambes. C'est la torpeur chez les supporters et chez les joueurs qui prennent en courant le chemin des vestiaires. Nos quatre Neymar nous quittent sur le brancard, sur le visage un drapeau jaune et noir aux couleurs du Fatah. Je crois pas qu'on fera le match retour, à moins qu'au paradis il y ait des stades de foot. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, le dernier club de football au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entrepôt de pêcheurs et hôtellerie de riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes. Que la honte s'abatte sur la tribune présidentielle, que les sifflets retentissent à l'hymne d'Israël, que le banc de touche accueille les fesses de Ban Ki-moon, que les cartons rouges rappellent le sang des champs de kibbutz. Stop au sionisme, stop à l'oligarchie. Dans nos copes, on milite en disant stop à l'oliganisme. Stop les colonies, stop le blocus de l'économie. Stop à l'hypocrisie, stop au tir de missile de la bordure protectrice. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, la dernière plage de martyrs au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entre pays pauvres et problèmes de pays riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'ONU siffle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes.
Voilà, c'était Palestine vivra, hein, son quatrième volet. Cette série documentaire signée Pavel Leika. C'était donc le quatrième épisode consacré à la justice des armes. Retrouvez les références, les sources et tous les épisodes disponibles de cette série documentaire sur notre site sourier.info, sourier.ez.info. Voilà, on se retrouve dans deux semaines et bonne fin de soirée sur Radio Libertaire 89.4.